Bonjour à tous, bienvenue sur RDWA et l'émission L'Heure des Sages. Aujourd'hui, je reçois Paul Charroy qui va nous parler de la transanalyse. Celle-ci est une méthode innovante de développement personnel s'appuyant sur différents outils comme l'art du souffle, le Tao du clown ou encore le jeu scénique. Bonjour Paul. Ce qui m'intéresse dans notre rencontre, c'est que tu me parles d'une nouvelle méthode que tu as mis en place avec deux autres personnes, Imanu Risselard et Giovanni Fuzzetti. Tu peux me dire tout d'abord votre parcours, comment vous êtes arrivé à cette création de la technique de la transanalyse?
Alors avant tout, la transanalyse naît d'une rencontre, et deux rencontres plurielles, puisque nous sommes trois, avec des cheminements différents. Donc pour Imanu, c'est une rencontre aussi amoureuse, nous sommes un couple et nous avons donc mis en commun nos différents parcours qui pour elle est à la fois ancienne artiste scénique avec la danse mais aussi le théâtre et puis moi avec un parcours aussi scénique avec les arts martiaux chinois comme gestuelle chorégraphique. Et puis un cheminement de quête personnelle, de connaissance de soi pour nous deux, qui nous a amené à nous retrouver aussi sur un parcours de psychologie transpersonnelle, de rebirthing, de bioénergétique reichienne, donc Alexander Lowen pour ceux qui connaissent. Et tout ça s'est mélangé un petit peu entre l'expérience initiatique de la scène, d'un rôle, d'une gestuelle, d'une improvisation en spectacle, avec aussi la connaissance de soi dans l'alcôve d'un cabinet psychothérapeutique, psychanalytique, psychotranspersonnel. Et tout ça, nous avons trouvé qu'il y avait des liens. Et puis il y a eu la rencontre ensuite avec Giovanni Fuzzetti, ancien professeur de l'école de théâtre mouvement de Jacques Lecoq, qui lui est gestalt thérapeute, artiste aussi scénique. Et notre rencontre, on a bouillonné ensemble, on a passé des soirées à discuter, à refaire le monde du travail sur soi, qui allait de la méditation au qigong, au yoga, au théâtre, à l'expérience initiatique de la scène, etc., etc. Et tout notre travail, nos cheminements individuels de connaissance de soi. Et tout ça s'est un petit peu mélangé. Et à un moment, il nous a paru essentiel de créer une nouvelle discipline qu'on appelait d'ailleurs l'art de la transanalyse. Et comme son mot l'indique, transanalyse, c'est trans et analyse. Et ce qui l'ornière un peu de la psychanalyse, des fois, ça serait peut-être de se réfugier un moment dans une analyse et une vision très mentale de la construction caractérielle et de notre adaptation au monde. Et l'autre idée, l'autre ornière de la trans tout seul, c'est de manquer un moment l'analyse, le mental, de mettre des mots sur le vécu, sur le ressenti sensoriel. Et notre gageur, un peu, c'est d'avoir mis les deux ensemble et de faire le pari et le défi que c'est nécessaire et que c'est ça qui est intéressant.
Parce que finalement, ça n'a pas l'air de s'opposer, la trans et l'analyse. De ce que tu me dis, c'est très complémentaire, de la façon dont vous l'avez mis en route, en place.
Bien sûr, d'ailleurs, pour rendre honneur quand même aux pionniers de la quête de soi occidentale, donc Freud, qui le premier a un petit peu retourné l'observation scientifique sur l'intériorité, dans notre culture, sinon ça existait aussi par ailleurs. Mais il y a eu ensuite d'autres personnes, il y a eu bien sûr Jung, il y a eu Reich, et nous sommes vraiment d'inspiration reichienne. Et pour toutes ces personnes-là, il y a la nécessité, en fin de compte, que ce qui, à un moment, réapparaît, c'est-à-dire que le principe donc, de la psychanalyse, pour faire très simple, c'est qu'en fin de compte, je commence à parler au départ, où je ne parle pas d'ailleurs, mais je commence ensuite à entendre mon silence ou mes paroles. Et c'est comme ça qu'au bout d'un certain moment, je commence à entendre mon histoire. Et c'est le début, en fin de compte, de la connaissance de soi dans ce type de technique, on va dire, ou d'art. Tous ont bien dit qu'il était nécessaire qu'une prise de conscience d'un schéma, d'un comportement, soit en fin de compte vécue avec un revécu émotionnel, avec un revécu sensoriel. Sans ça, on allait nourrir le mental et on allait s'encombrer en fin de compte de notions. Donc ils l'ont tous souligné. Après, il y a un cheminement qui fait que le corporel sensoriel est peut-être, entre guillemets, moins présent quand on est dans un divan, et je dis bien quoique, parce que qu'est-ce que c'est que le corps? Ça amènerait aussi cette question. Le corps n'est pas seulement une performance d'amplitude de mouvement, il peut être très subtil dans une attention, y compris sur un divan. Donc l'idée n'est pas du tout incompatible entre la connaissance de soi, les moments de revécu émotionnel où surgit une histoire subjective de nous-mêmes, puisque c'est à la fois notre histoire, mais c'est surtout l'imprégnation de notre histoire qui est en nous. Donc quand on commence à travailler sur soi, quelle que soit l'approche et la technique, notre histoire, et c'est ce qu'on affirme en transanalyse, pour nous est une légende. Donc à partir du moment où c'est une légende ou un conte, je peux le mettre en scène, je peux le jouer. Et à ce moment-là, ce que je joue de moi ne se joue plus de moi. Et c'est ce que apporte la transanalyse, c'est cette idée en plus par rapport à ce qui s'est fait en psychothérapie d'une manière générale, où on disait ce que je n'exprime pas s'imprime. Nous nous rajoutons aujourd'hui, ce que je ne joue pas de moi se joue de moi, d'où l'intérêt de le jouer. Et l'autre chose intéressante et importante, c'est que quand je joue quelque chose, mon inconscient ne sait pas ce qui... Il ne va pas forcément différencier le vrai et le réel. Et donc à partir du moment où je change un schéma de comportement dans un scénario, que je peux donc libérer d'abord les énergies refoulées, les énergies enquistées, que je peux donc les libérer en les exprimant dans un lieu ou sur dans un espace où il n'y a aucun risque pour l'autre, donc je peux même exprimer la rage, je peux même exprimer des choses absolument terribles que je ne peux absolument pas faire le reste du temps. Une fois que ça c'est fait, qui est déjà libérateur, qui peut déjà être transformateur d'une manière spontanée, ensuite je peux aussi acter un changement de scénario, et pas seulement le penser. C'est là toute la force pour moi de la transanalyse.
Et justement, comment vous intervenez lorsque une personne fait ce travail de transanalyse? Comment vous avez un rôle de guide, j'imagine, mais de quelle manière?
Alors, il y a plusieurs manières où nous recevons des personnes en séance individuelle qui s'engagent sur une notion de temps, de saison. Parce que l'engagement est important pour passer certains passages. S'il n'y a pas engagement, des fois on s'arrête en cours de route. Et donc on fait après à chaque fois des bilans et on recommence ou pas. Mais les séances individuelles ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'il y a pour mettre en scène à un moment une première étape de travail individuel qui est bien pour faire apparaître ce qu'on appelle la construction caractérielle, qui est pour nous sous la forme d'une roue des personnages. Pour nous, ce n'est pas des gros mots ce que je vais dire aujourd'hui. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement schizoïdes, masochistes, psychorigides, etc. etc. Nous sommes plusieurs choses. Nous sommes par moments masochistes, par moments nous sommes autres, par moments nous sommes rigides, par moments, etc., etc. Et donc on fait apparaître dans les séances individuelles cette roue des personnages avec un travail d'abord sur un miroir et sur la respiration. La respiration étant la porte entre le conscient et l'inconscient, pour faire simple, et donc de travailler des dynamiques de respiration différentes va fluidifier les portes, le passage, et va permettre de faire apparaître des états émotionnels éventuellement, des images, des pensées, etc., etc. Et à partir de cette matière, on l'ordonne quelque part, on l'endigue sur un calque, qui est un calque, la matière vivante est plus complexe et subtile que ça, qui est donc la roue des personnages, et d'essayer de définir un cycle. Quand les personnes ont défini un cycle et qu'elles ont vu qu'elles tournaient dans un cycle qui leur permet d'appréhender leur construction caractérielle et leur adaptation au monde, donc en gros toute leur névrose ordinaire, et une fois que ça c'est fait, elles baptisent ces parties d'elles-mêmes avec des noms de personnages, elles définissent un peu plus leurs pensées, leurs sentiments dominants, leurs émotions dominantes, leur attitude corporelle, la façon de marcher, etc. Donc on peut aller très loin, et c'est là où il y a la transposition poétique aussi et artistique, c'est que d'un seul coup c'est comme si on écrivait un scénario. Et donc on peut aller plus loin dans le personnage, comment il s'habille, etc. Et même aller utiliser cet imaginaire pour dire mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour être comme ça? Et c'est à ce moment-là aussi que la personne commence à parler d'elle et de son inconscient en disant des choses vraies même si elles ne sont pas réelles. Ça, c'est une autre grande subtilité pour moi.
Excuse-moi, réel dans sa vie, tu veux dire ? Réel à quel niveau ?
À partir du moment où, pour nous, l'histoire est subjective, je vais le dire d'une manière provocante pour que les gens comprennent bien, on s'en fout que ce soit réel ou pas. C'est-à-dire, si une personne a un sentiment qu'elle a été abusée, qu'elle a été violentée, qu'elle a été battue, etc., etc., on ne va pas chercher en transanalyse à savoir si c'est vraiment vrai, si c'est un délire, si c'est une vie karmique, si c'est une mémoire transgénérationnelle, peu importe. Si la personne a ces sentiments-là et cette sensation, ça parle de quelque chose de vrai, même si ça n'est pas réel. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc restons dans le poétique, continuons à puiser dans le poétique, pour qu'il l'exprime et pour qu'on puisse voir ce qui est exprimé dans ce poétique et cet imaginaire. Et comme on est dans une transposition aussi artistique, scénique, dans une théâtralisation par exemple, on peut ensuite changer ce scénario et le modifier. Et voir si nous avons des difficultés à jouer ce différent-là, cet autre possible, ou au contraire à revendiquer et à rester dans la douleur, la blessure, dans le schéma imprégné, qu'on appelle d'ailleurs l'enfant tyran, etc., qui n'est pas de nous d'ailleurs, hein, ça, bien d'autres l'ont déjà souligné.
Et justement, comment se fait le passage blessé vers l'autre moi, si je puis dire, plus épanoui, plus soi ?
Alors, pour nous, rien de mieux à un moment que quelque chose qu'on appelle la levée des corps, qui est de montrer devant un public choisis, qui sont des personnes aussi qui cheminent, mais devant un public d'une dizaine de personnes, par exemple, pour qu'il y ait suffisamment d'énergie. Et là, donc, symboliquement, le public va représenter le monde, et ce qu'on gardait dans le secret de nous-mêmes, on va le montrer. Et donc, la personne va jouer sa roue elle-même. Et le fait de faire cet acte-là, déjà, des choses changent. Ou sinon, elle peut aussi, si elle a du mal à jouer elle-même, si elle colle ou si elle n'a pas ce talent ou ceci, cela, peu importe, elle devient metteur en scène. Et donc, à ce moment-là, elle choisit des personnes qui vont jouer tel et tel personnage et elle va mettre en scène et guider pour ajuster un peu plus douloureux, un peu plus joyeux et ainsi de suite. Et donc, le fait de faire ça, c'est un acte qui est déjà là transformateur puisqu'il y a un décollage de ma propre histoire que je montre d'abord au monde et qu'en plus, je fais jouer par d'autres. Et là, on peut encore utiliser la transe dans cette idée chant scénique, transe qui est que la vérité et la libération est partagée et commune, c'est-à-dire que ceux qui ont été choisis pour tel et tel rôle, ça n'est pas par hasard non plus. Donc ils ont des résonances dans leur propre construction caractérielle et donc ils vont pouvoir d'abord travailler aussi sur eux, entendre ce qu'ils jouent et ce qu'ils font pour eux, pour aller dans des espaces qu'ils n'iraient pas forcément tout seuls. Et donc ils vont toucher des choses et en plus ils peuvent donner un retour à la personne qui travaille, qui est aussi là un retour plus intéressant qui est des fois muet pour nous-mêmes. Et donc l'autre va pouvoir questionner, on va même pouvoir lui demander « mais qu'est-ce qu'il te faudrait ?» ou « qu'est-ce que je pourrais faire pour toi pour que tu changes ça ?» Et d'un seul coup, on a même des réponses de guérison et de transformation. Donc pour nous, cette étape après passe obligatoirement par cette mise au monde de notre construction caractérielle pour la transformer, pour la jouer. Et c'est par ce travail-là qui devient plus seulement individuel, que je transforme aussi complètement mon histoire.
Oui, c'est une histoire de coévolution finalement.
Exactement, ça c'est la leçon initiatique que les personnes vivent quand ils cheminent, c'est que d'un seul coup, on voit une sorte de fonctionnement où la roue de quelqu'un qui est jouée par différentes personnes, chaque personne qui joue un truc pourrait devenir le centre d'une roue aussi, et ainsi de suite, et là on a une expérience vraiment très pragmatique de ce qui est dit dans d'autres traditions, où en fin de compte, tout le monde change, ou tout le monde ne change pas, ou tout le monde participe au changement, ou à la résistance au changement. Et que le salut, comme les Bouddhas l'ont dit par exemple, est collectif.
Repica la zambumba, llama a la mujer. ¡Todo! Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón. Repica la zambumba.
pasa. Chica, ¿dónde vas?
Me voy pa' bailar.
El bayón.
Tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen todos cuando me ven pasar.
Chica, ¿dónde vas?
Me voy pa' bailar.
Au public, le public, lui, entre guillemets, ne monte pas sur scène. Il est juste, il reste spectateur. La personne qui, par exemple, veut travailler sur une difficulté personnelle, elle ne va pas faire venir une personne du public sur scène pour le mettre en scène. Tout était déjà préparé avant, en fait, c'est ça ?
Alors nous fonctionnons comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose, c'est pas comme ce qui se faisait avant dans le psychodrame, etc., etc. Donc la personne peut choisir dans le public. Nous lui demandons avant de faire son casting, puisqu'elle va convoquer un jour précis des personnes pour assister au jeu de sa roue, à la mise en lumière de sa roue. Et donc elle pense à des personnes et à un public qui reste aussi pour pouvoir voir, réagir, agir. Applaudir, rire, pleurer ou rester silencieux suivant ce qui se passe. Et là aussi, le public a un rôle important puisque la justesse de ce qui se passe est toujours ressentie par le public et par le champ de l'espace. Et quand c'est pas juste, ça ne passe pas. Donc c'est vraiment un diapason très signifiant.
Et qui vient parmi le public ?
Alors là, c'est les amis. Plutôt que les membres de famille, généralement, c'est plutôt des amis. Les personnes qui font le cheminement, qui les ont déjà vus en stage de transanalyse, en Tao du clown, en travail de masque neutre, ou des choses comme ça, donc ils connaissent, ou dans les cours de Wushu, de Qigong, de Wu Tao, etc., qu'ils peuvent donc convoquer. Il arrive des fois, nous avons dérogé à une règle psychanalytique qui généralement ne prend pas les membres d'une même famille. Cette règle, moi personnellement, je l'ai compris dans l'idée qu'il y a des fois des secrets de famille, des choses qui ne peuvent pas se dire, qui sont tellement tabous, que la présence même d'une personne de la même famille va inhiber celle qui chemine. Alors ça, c'est la règle que je peux comprendre, qui est intéressante, mais nous avons aussi des expériences différentes où nous avons osé travailler avec des personnes d'une même famille. Et là, il y a des choses intéressantes, parce que quand j'ose dire des choses et transformer des choses au sein même de ma famille, ça a un effet de transformation beaucoup plus fort. La seule chose, c'est qu'il faut être attentif, parce qu'on est sur un fil, soit on engramme l'inhibition, si on rate, soit au contraire, on libère davantage, et là, c'est une plus grande transformation. Donc ça, c'est à chaque fois du cas particulier, une estimation...
Oui, en t'écoutant, je me dis c'est complètement une mise à nu finalement et c'est un challenge pour la personne de faire ce travail devant le public.
C'est une mise à nu, je suis complètement d'accord. C'est pour ça aussi que nous disons, pour nous, nous voulons sortir aussi le travail sur soi de l'aspect mal-être uniquement. D'abord, il y a plein de bonnes raisons d'être mal. De pouvoir cheminer, s'interroger et être aidé là-dessus, c'est une très bonne chose. Mais nous sommes aussi des amoureux de la conscience et de ce cheminement-là. Et donc, nous avons voulu sortir un peu cette quête-là du côté « je ne suis pas bien, j'ai besoin, etc. » et donc de s'adresser aussi à des personnes qui sont des amoureux et qui ont envie de découvrir ce qui les anime au-delà de ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes. Et ce désir-là d'amoureux est donc très tantrique, pour faire le parallèle. Et cette mise à nu est peut-être pour nous, avec Imanu et Giovanni, le vrai tantrisme. C'est-à-dire qu'il y a le tantrisme des corps, de la sensualité charnelle, etc., qui est un magnifique cheminement quand il est très bien fait et bien accompagné aussi. Mais il y a aussi l'autre tantrisme, qui est le tantrisme de l'analyse caractérielle, de ma construction caractérielle, auquel je me suis identifié, dans lequel, dans ce cheminement-là, il y a un espace initiatique très fort qui est que je ne suis pas mon histoire. Mon histoire se joue en moi. Je prends un exemple très simple. J'ai eu une relation au monde d'une manière générale, je vais être très caricatural pour bien faire comprendre, plutôt très bénéfique, très positive, c'est-à-dire que le monde m'a toujours soutenu, accueilli, etc. J'émettais un désir, j'avais le sein de ma mère tout de suite, voilà. J'avais une certaine angoisse tout de suite, on venait me sécuriser, etc. J'ai développé ça, j'ai grandi, ainsi de suite, bon. Et je suis dans ce rapport-là au monde. Et donc, je m'identifie à cette construction caractérielle et je suis plutôt quelqu'un d'enthousiaste, de joyeux, etc. Puis, d'un seul coup, il m'arrive quelque chose. Là, c'est, je me prends une grande claque à travers la gueule, voire un mur, voire une montagne. Et à partir de là, tout change. Et d'un seul coup, le monde devient terrible. Un monde d'angoisse, un monde hostile, etc., etc. Et à ce moment-là, je commence à développer un autre pôle qui devient ça. Et je m'identifie à ça. Et les gens disent, bah, Paul, c'est quelqu'un qui putain, il a peur, il est toujours dans l'angoisse, etc., etc. Et moi, je me définis comme ça. Et je vais même le crier tellement je revendique et je crie ma blessure, au fond. C'est ce qui se passe beaucoup dans n'importe quel type de cheminement. Et donc, le travail sur soi, quand on décolle et quand on joue, quand on fait jouer, quand on voit sa roue, on voit sa construction caractérielle, c'est un espace qui est proche de l'éveil et de la folie. Parce qu'à ce coup, je vois la folie de ma construction caractérielle, où je passe de ça à ça, je suis enthousiaste, après je suis déprimé. Je vois ce cycle infernal, quelque part, qui tourne et qui tourne comme ça. Et je m'identifie à cette construction caractérielle, à cette adaptation d'un monde hostile et de ce que je suis devenu. Mais juste avant cet événement, je n'étais pas ça. Et cet espace-là, à chaque fois quand on travaille sur soi dans la transanalyse, est approché, est vécu, est traversé, et donne un espace initiatique qui décolle encore davantage et nous permet encore davantage de jouer. C'est-à-dire que mon histoire se joue en moi, mais je ne suis pas mon histoire. Et là, c'est l'espace dans lequel chacun, après, va y mettre ce qu'il veut, Dieu, le Tao, Bouddha, peu importe. En transanalyse, on s'en fout de comment la personne va nommer ça, etc. Mais notre cheminement nous a amenés au fait qu'il est important que les personnes remettent un espace de mystère et de sacré dans leur propre histoire et dans leur propre vie. Sans cet espace-là, des fois, il vaut mieux pas faire de travail sur soi. Parce qu'on s'encombre. Ça peut être difficile.
Et ça demande aussi beaucoup de courage pour faire ce travail. Oui. Et par rapport à ce que tu dis, moi j'ai l'impression que finalement, c'est comme si on épluchait un oignon, petit à petit, et qu'on enlevait des couches, moi j'ai envie de dire de moi, les moi, tous les petits moi qu'on a en soi en fait. C'est cette idée-là que tu rejoins en fait dans ton explication.
Tout à fait. Alors l'idée d'enlever des vêtements, d'enlever des costumes, pour reprendre là par rapport à la transanalyse, et c'est vraiment ça, avec une petite nuance. C'est que le fait d'enlever, c'est comme si on voulait se débarrasser de ces moi et de notre histoire. Or, en transanalyse, on insiste beaucoup sur le fait de transformer. Le mot « transformer » par lui-même est très intéressant. Il est proche de la transanalyse puisqu'il y a « trans » et « forme ». Et donc, on est complètement là-dedans. Ce qui m'a transformé dans mon adaptation au monde, dans ma construction caractérielle, ce qui m'a rendu quelque part aussi névrotique, qui est une adaptation, que je vais reproduire même quand les conditions qui l'ont créé ne sont plus là. C'est là où je reproduis la névrose. Donc, cette première transformation de cette matière que je suis, de ce mystère que je suis, auquel je m'identifie donc ensuite, qui devient ma personnalité. D'ailleurs, le mot personnalité vient du latin persona, qui veut dire masque. Intéressant. Donc, la transformation, il s'agit dans la transanalyse de vivre une transanalyse pour transformer nos formes. Et donc, pour transformer nos formes qui ont été formées par une transe, pour nous, il n'y a qu'un seul chemin, c'est la transe. Je ne peux pas le faire d'une manière intellectuelle. Pour nous, tout le monde n'est pas obligé de nous croire, mais nous l'affirmons après aux gens de se positionner. Nous ne croyons pas qu'on peut transformer quelque chose, une matière qui a été formée par une transe et par des années d'observation de l'enfant, de son jardin d'enfance, d'imprégnation dans des états de conscience modifiés, affectifs très forts, de fusion, de besoin de séparation, etc., dans des intensités énergétiques très fortes. Nous ne pensons pas et nous ne croyons pas qu'on peut transformer ça sans un état de conscience particulier qui est amené soit par la respiration pour nous et puis après par la mise en scène qui, quand on ne surjoue pas, est vraiment une transe.
Par exemple, tiens, tu peux me décrire un atelier type transe avec la respiration, comment ça se passe ?
Alors, ça va être long, mais je vais pouvoir donner des petites notions. Donc cette pratique du souffle, elle se fait pour nous d'une manière artistique, encore une fois, et pas méthode, pas avec sérieux, pas avec le système volontaire, etc., comme trop souvent ça l'est dans le pranayama, dans le qigong, dans le chant même, ou dans les arts martiaux, parce que là on a besoin de contrôler et de maîtriser. Or, nous, pour la transe, on a surtout besoin d'ivresse, de lâcher prise, donc surtout pas de maîtrise et de contrôle. Donc, le travail va se faire sur des séquences rythmiques, donc on va travailler sur des chants. Alors il y a des séquences toutes simples que je peux peut-être essayer de faire là, qui sont sur quatre temps, où on va travailler deux dynamiques internes qui sont différentes. Donc ça va donner par exemple, donc là j'ai fait un temps d'inspire, trois temps d'expire, puis après on va faire l'inverse, on va faire. Etc., etc. Puis après, je vais travailler sur cette sensation interne où il y a des élasticités internes qui sont donc des élasticités de retour et de rebond. Donc quand je tire mon inspire et que je relâche, c'est une élasticité de retour. Donc ça fait... D'accord ? Et donc tout ce travail-là me permet de travailler sur des séquences, sur un solfège rythmique que nous devons à un frère de pratique de souffle qui s'appelle Abdeslam Michel Raji, qui est celle-ci, qui est une petite séquence qui donne ça. Etc., etc. C'est un petit solfège qui permet de fluidifier la respiration, fluidifier le souffle, pratiquer et fluidifier son instrument pour bien qu'il résonne. Donc je vais travailler un peu mon instrument quand même, pour pouvoir aller en plus dans un espace qui souvent est très peu travaillé dans les techniques respiratoires de maîtrise et de contrôle, où généralement tout est travaillé sur l'expire. Et nous pensons qu'il est très important, puisque la vie commence par une inspire, aussi de travailler sur l'inspire et la façon dont je peux me détendre sur l'inspire. Pourquoi ça c'est important ? Parce que dans le solfège et dans le jeu ensuite des formes que l'on rencontre de soi, il y a des formes qui sont plutôt scotchées dans notre jargon en expire, c'est-à-dire qu'elles sont des formes de contre, qui sont dans le contre, qui respirent dans le dos, qui n'inspirent plus. Et puis on a des formes au contraire complètement qui sont là-haut, la vie est belle, qui sont dans l'inspire et qui sont scotchées dans l'inspire. Par exemple, il y a plein d'autres nuances. Mais donc, si je n'ai pas cette petite fluidité quand même qui se travaille au fur et à mesure du cheminement, ben je vais moins pouvoir aller dans le sentiment et dans l'émotion des formes que je peux commencer à repérer de ma construction caractérielle. Quand on rentre un peu dans ce travail de souffle, on rentre obligatoirement dans des mémoires primordiales. On va aller dans des sons primordiaux qui libèrent les émonctoires dans notre jargon, qui va permettre donc des revécus émotionnels et des expressions plus facilement. Et donc on va ouvrir un peu ces espaces-là et on va aller complètement dans des danses et des chants si on le souhaite. Mais ça n'est pas du tout une obligation. On peut rester assis en bougeant très très peu. Par contre, ce qu'on doit toujours sentir, c'est que ça danse dedans. C'est-à-dire que si je respire avec quelque chose qui ne balance pas, je suis dans le laborieux, je suis dans le système volontaire. Et on ne peut pas toucher certaines choses et certaines subtilités de l'ordre de l'inconscient par le système volontaire. Donc la grosse erreur pour nous, par exemple, du Qigong aujourd'hui ou du yoga, je dis bien d'une manière pareille générale, il y a beaucoup d'exceptions, c'est qu'on essaye de corriger, c'est le mot en plus, des postures, des attitudes par le système volontaire, au lieu de lâcher les tensions qui sont inscrites. Donc pour lâcher ces tensions qui sont inscrites, on sait scientifiquement aujourd'hui que c'est par le système involontaire qu'on peut les lâcher. Donc par des relaxations profondes, par de la vitesse lente, par des états de transe, etc. Tout ce que je corrige par le système volontaire ne tient pas. Dès qu'il y a quelque chose dans ma vie, paf, tout revient, soit parce que je suis fatigué, soit parce que j'ai vécu un stress émotionnel, parce que je suis amoureux ou parce que je viens d'être quitté. Je ne peux pas transformer réellement ce qui est imprégné en moi dans ma forme, dans mes postures, dans mes limites articulaires, si je ne rentre pas en transe, quel que soit le type de transe, parce que la transe, ce n'est pas avoir les yeux révulsés, de baver, etc. C'est la transe que vous connaissez les uns et les autres quand on lit un bon livre et qu'on a un étirement du temps et qu'on n'a pas vu le temps passer. C'est la transe amoureuse qui peut être très emportée, très forte, mais aussi très douce, très tranquille. Il faut même s'interroger si j'ai toujours besoin de vivre des choses très très intensément fortes, c'est que c'est un schéma.
Que vous utilisiez des masques, non ? Ou c'est plutôt, pardon, le nez rouge du clown ? Comment il est intégré dans la transanalyse ?
Alors, dans la transanalyse, il y a... on aimerait utiliser davantage les masques et un travail de masque, tel qu'il se fait d'ailleurs dans certains types de théâtre. où on va travailler sur soi et puis travailler sur un masque larvaire par exemple, ensuite sur des masques archétypaux, etc. Puis après les jouer. Jouer ses propres masques, c'est jouer des parties de soi-même aussi. Et ce qui est intéressant dans l'art initiatique, quand on regarde ce travail théâtral d'une manière initiatique, c'est que je suis capable de jouer un masque que s'il décolle de moi. S'il ne décolle pas, je ne peux pas le jouer. Donc ça, c'est intéressant. Sur scène, les gens qui ont l'expérience et ce vécu-là, on l'a tous vu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait, mais faire son propre masque, en gros, c'est 10-15 jours de travail, en continu, avec une salle en continu, avec un coup, etc. Bon, difficile à mettre, mais on ne désespère pas. Je pense qu'un jour, on va pouvoir le faire. Mais sinon, on utilise donc deux types de masques. Un masque neutre, qui n'est pas le masque blanc, qui est un masque de cuir marron, où il y a un masque féminin et un masque masculin. Quand on revêt ce masque masculin ou féminin, quand on est un homme ou une femme, apparaît tout le champ vibratoire de notre corporalité. Et apparaît, on pourrait dire, le masque du corps plutôt que le masque du visage. Et le public, d'un seul coup, va avoir une impression. Donc on est dans de l'impressionnisme. Hein. Il va avoir une impression, il va ensuite vous dire cette impression. Et quand il vous dit cette impression de ce qu'il a vu, donc soit par exemple on fait des petits exercices qui sont le réveil, quelqu'un qui se réveille avec le masque, et vous avez cru être neutre, voilà, je me suis réveillé, et le public lui reçoit une histoire qui n'est pas neutre. Et donc il vous donne après à voir, à entendre, à ressentir ce qui se dégage de vous et qui impressionne l'autre. Et à ce moment-là, si vous acceptez la relation initiatique, vous le respirez ça, et vous le prenez pour vous, et bah, vous découvrez des choses de vous-même que vous ignorez ou que vous ne voulez pas voir de vous. Et si vous l'acceptez, commence un travail qui est plus proche d'ailleurs de, on va retrouver dans la thématique le travail du yoga, du qigong, etc., qui est qu'on va interroger la personne, les accompagnateurs, en lui disant, mais si la personne a vu un guerrier, par exemple, prêt au combat, qu'est-ce qu'il y a dans ton corps, dans ta corporalité, qui, à ton avis, a pu faire penser à ça ? Alors la personne va dire, ma corpulence, mes épaules en l'air, ma poitrine en avant, etc., etc. Donc elle prend conscience que de schémas corporels qui induisent quelque chose. Mmh. Et on va travailler sur le relâcher des tensions. C'est pour ça que je faisais le parallèle là avec le yoga, la méditation, le qigong ou le travail de placement d'une manière générale. Donc on va ajuster et relâcher, pas corriger, pas comme en gym. Et dans ces relâchements et ces prises de conscience, il y a des fois dans le relâcher, l'émotion qui était enquistée dans cette forme se libère. Il y a donc des fois des revécus émotionnels, des choses très fortes. Et donc, on va tendre vers le neutre. Dans notre jargon, on essaye d'enlever le bruit de la posture pour qu'elle se calme et pour que le public, d'un seul coup, perçoive d'un seul coup quelque chose calme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire. D'accord ? On voit quelqu'un qui est debout, point. On voit quelqu'un qui est debout, qui est impatient. Ah, il y a eu du bruit. Donc, on va travailler sur ce bruit pour rendre la posture calme. Donc, ça, c'est tout le travail. Et puis le plus petit masque au monde, qui est le nez rouge, le clown, dans notre formation scénique, ce n'est pas le bouffon. Le clown et le Tao du clown tel qu'on a insisté là-dessus, parce que souvent les gens qui viennent faire des stages de clown, ils viennent, ils veulent faire rire. Or, le travail de clown, nous, qu'on propose, c'est surtout de ne pas vouloir faire rire. Pour nous, un clown ne veut pas faire rire, ça fait rire. C'est-à-dire que là, c'est la célébration du corps névrotique, c'est-à-dire tout ce qu'on échappe généralement, tout ce qu'on fait pour détendre nos épaules, pour ceci, pour se présenter, etc., à nous-mêmes et à l'autre d'une manière plutôt valorisante, et ben là, on va plutôt à la rencontre de ce qui est le caché, enfoui, qui est une blessure généralement. Et cette faille-là, quand elle apparaît, si j'accepte d'y plonger, et je vais vivre une transe, je vais plonger et je vais d'un seul coup, protégé par ce plus petit masque au monde qui est le nez rouge, je vais d'un seul coup faire rire, pas dans le fait de vouloir faire rire, mais parce que je suis sincère avec ce qui se passe en moi, je vais vivre quelque chose et ça fait rire. Et là, c'est quelque chose de paradoxal, de magique presque, parce que ce moment-là, quelque chose de douloureux en moi que je retraverse, fait rire, et le fait que ça fasse rire, je vais d'un seul coup prendre du plaisir à vivre et à exprimer ce qui a été douloureux pour moi, et ce nœud se défait complètement. Si j'assume ce qui se présente.
Oui, parce qu'il peut y avoir des résistances qui se mettent en place, mais là, d'après ce que tu me dis, ça casse les résistances, finalement.
Alors, ça ne casse pas les résistances, puisque ça, c'est l'autre façon de faire. Ça me permet de parler que l'ancienne façon d'arriver à ça dans le travail du clown, c'était justement des stages sur 3 semaines, 1 mois, que nous, on a pu connaître, et dans lequel les personnes, les animateurs, les encadreurs du stage, faisaient en sorte que nous prenions le bide. Donc, il y avait des consignes, assez sadomaso d'ailleurs, hein, comme axe, mais qui était à chaque fois qu'on se présente sur scène, le public ne devait pas réagir. Pour qu'on casse justement toutes nos tentatives de faire rire, toutes nos protections de comédiens, etc., etc., toutes nos ruses et nos trucs de comédiens, et il fallait créer le bide pour que la personne se déshabille complètement, qu'elle tombe dans le bide et qu'elle arrête de penser les choses et qu'elle tombe dans le ventre. L'idée du bide, c'est ça. C'est tombé dans son ventre. Et donc, à ce moment-là, apparaît quelque chose. Et donc, en gros, cette première semaine de bide faisait que la deuxième semaine commençait à apparaître quelque chose de vrai. Hein? Et ce vrai, d'un seul coup, on surfait dessus, on y allait dedans, et là, le public pouvait réagir, et là, on savait si, quand ça fonctionnait ou pas. Mais ça, c'était l'idée. Donc, c'était une façon d'y arriver assez cassante. Nous, aujourd'hui, dans le Tao du clown, on travaille sur la respiration. C'est-à-dire qu'on fait des entrées, on est derrière son masque, on regarde le public et on respire. Et simplement avec cette respiration, où là, on va... Une respiration toute simple. Hein. Et je ne quitte pas des yeux le public, je reste en contact. Et simplement de respirer avec mon nez rouge dans une entrée et de rester en contact, d'un seul coup, il se passe des choses. D'un seul coup, mon pied bouge, ma main ou ma bouche s'anime. Et là, les accompagnateurs vont souligner ça, ils vont demander à la personne, « Suis ça, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que ça te fait? Continue. » Et donc, c'est une plongée plutôt douce. D'accord? Si par contre, je rencontre quelque chose ou quelque chose en moi ne peut pas encore y aller ou ne veut pas, bah, on arrête, stop, et on assume l'arrêt. Par contre, on donne un retour, puisque là, c'est un Tao du clown, donc c'est la voix du clown pour la transanalyse, on donne un retour qui est, qu'est-ce que c'est signifiant ça? Là, il y a quelque chose qui est encore une zone taboue. Soit parce que la personne n'est pas prête et qu'il lui faut du temps, soit elle est dans une résistance qu'elle va reproduire. Donc quand elle revient et que ça recommence, bah peut-être qu'elle va le reproduire jusqu'à en avoir suffisamment marre pour un jour se dire non, j'écoute plus ça et j'y vais.
Il y a un besoin de beaucoup d'amour et de bienveillance pour soi pour faire ce type de travail. Et aussi de la part des personnes qui viennent travailler avec soi, et aussi le public qui vient écouter et regarder.
Alors je rajouterais juste une petite nuance, c'est pas ce qu'il faut, puisqu'en fin de compte ça se fait tout seul. C'est-à-dire à partir du moment où on a travaillé sur soi, qu'on a suffisamment cheminé, on a obligatoirement plus de compassion pour les autres d'une manière générale, donc obligatoirement plus d'amour, et tout ce travail se fait dans un sentiment de fraternité, de sourire absolument nécessaire. Sinon, on se dévoile pas. Mais je dirais que ça se fait presque d'une manière naturelle. Et c'est ça qui est intéressant aussi de voir, c'est que ça, il y a dans l'idée de la compassion un effort d'amour, des fois sur certaines formes qui peuvent m'être difficiles à assumer ou à vivre, à être en contact ou à jouer avec un personnage sadique, par exemple. Mais cet effort d'amour, il se fait très facilement parce que quand j'ai travaillé sur moi et que j'ai moi-même vu des parties puantes chez moi, je suis amené beaucoup plus facilement à être ouvert à ces parties-là pour l'autre, chez l'autre. Et donc, d'un seul coup, je ne suis plus dans le rejet. Et puis, comme je suis dans un travail aussi initiatique, je sais aussi que ce que je rejette éventuellement chez l'autre, ce que je n'aime pas aimer chez l'autre, peut-être que c'est un peu quelque part chez moi aussi. Donc, quand on a l'habitude un petit peu de ce travail-là, d'un seul coup, on est tout de suite plus accueillant de l'autre, de ce qu'il est, etc. Donc, ça donne une qualité énergétique, vibratoire, qui favorise effectivement le principe. Mais ce qui est intéressant dans l'expérience que l'on a, c'est que c'est presque une nature humaine, en fin de compte. C'est-à-dire que les adultes qui font ce travail-là retrouvent une nature humaine de l'enfant qui est plutôt enthousiaste, qui est plutôt avec, qui a envie de jouer avec ses copains et ses copines. Il n'a pas envie. C'est petit à petit qu'il va être marqué par des choses et transformer ses comportements.
Et justement, est-ce que à travers ce travail de transanalyse, finalement, c'est un travail de, on va dire, de retrouvailles avec son enfant intérieur finalement.
Oui, oui, mais pas seulement. C'est retrouver son enfant intérieur, retrouver l'enfant blessé quand il a été blessé, c'est le faire grandir, c'est donc aussi l'ajuster, parce que des fois il a scotché à un certain âge, à une certaine époque par rapport à des événements, donc c'est aller le chercher, aller le retrouver, mais pour le faire grandir. Donc c'est pas seulement retrouver son enfant intérieur, c'est faire grandir son enfant intérieur, c'est-à-dire faire grandir ses parties qui ont été enfermées, enquistées, dans notre enfant intérieur, traumatique, etc. Et donc de le monter et de le faire grandir pour qu'il chemine jusqu'à l'âge que nous avons aujourd'hui, qu'il mature et puis qu'il crée des choses, qu'il fasse des choses. Et qu'il ne reste pas seulement enfant. Il faut le retrouver, mais aussi le faire grandir.
Et quelles personnes viennent à ce travail de transanalyse ? Est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes ? Est-ce que...
Alors, non, il faut rendre honneur aux femmes, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Il y a 80% de femmes sur 100%. Les femmes sont beaucoup plus prêtes et beaucoup plus chevalières et courageuses pour s'interroger, pour se dénuder, pour se remettre en question, pour avancer, etc. Là, je suis un fantastique féministe là, là-dessus. Je vraiment... D'ailleurs, peut-être aussi que pour faire ce travail, il est peut-être nécessaire d'avoir des qualités féminines. Donc les femmes sont peut-être plus amenées, peut-être plus faciles en premier abord pour elles-mêmes. L'homme, lui, doit se défaire de certaines images qu'il a de lui-même, de sa virilité, du masculin, etc. Et parce que quelque part, c'est rentré aussi en cheminement de disciple. Donc le disciple, il doit accepter de découvrir des choses qu'il ignore de lui-même. L'homme est plutôt dans une représentation où s'il fait ça, c'est dangereux. Donc c'est une difficulté, ça fait un peu débander pour les hommes. Ils ont cette peur-là. Donc d'un seul coup, je me ressaisis et mon réflexe, ça va être de demander plutôt une tribu d'hommes et dans lequel je vais vivre des cheminements et peut-être que c'est un espace nécessaire, que les hommes aussi retrouvent cette sécurité-là d'hommes pour pouvoir ensuite se dévêtir de cette sécurité virile et enfin explorer cette intériorité a priori plus féminine.
Et alors, quelles sont les prochaines dates d'atelier de transanalyse ? Comment ça fonctionne un petit peu ?
Alors là, il y a une prochaine date très rapide, je ne sais pas par rapport à la diffusion si ça correspond. Il y a un stage de 3 jours qui a lieu le 7, 8, 9 juin sur la danse des polarités, où on travaille sur des polarités qui sont des dynamiques de vie qui sont en nous tous et qui, si elles ne sont pas exprimées, se pervertissent obligatoirement. Puis sinon, il y a un site qui est transanalyse.com, vous pouvez chercher ça sur Internet et être au courant de tout ce qui se fait d'une manière générale. Tous les ans, on a un cycle de transanalyse avec plusieurs week-ends sur l'année, avec un cheminement qui va, le voyage transsensoriel, le Tao du clown, le masque neutre, etc., les dynamiques de polarité qu'on appelle maintenant les danses de polarité. Et c'est un cheminement qui permet aux personnes donc, de venir, de faire l'ensemble ou d'en faire quelques-uns.
Bien, merci beaucoup, Paul, pour ce bel échange.
Merci, Anne-Claire, aussi, d'avoir pensé et demandé cette interview. À très bientôt.
Avec plaisir.